Il écumait en arpentant la chambre de la comtesse son épouse, et le plancher tremblait sous son pas.
« Et vous l'avez lu, et Tesson l'a lu, et la Divion l'a lu, et personne, personne de vous n'a été capable de voir ce malheureux 22 qui risque de faire crouler tout notre édifice. »«
Mais vous-même, mon ami, répond calmement Jeanne de Beaumont, vous avez lu et relu cette lettre. Vous en étiez fort satisfait, il me semble. »«
Eh oui, je l'ai lu, et moi non plus je n'ai pas vu ce vice. »
Lire des yeux et lire de voix, c'est pas la même chose.
Et pouvais-je penser qu'on allait commettre pareille sottise? Il a fallu que cet âne de notaire et l'autre âne qui a écrit la lettre, comment s'appelle-t-il celui-là? Rossignol! Ah!
Cela se prétend capable de rédiger une pièce. Cela vous extrait plus d'argent qu'il n'en faut pour bâtir, et ça n'est même pas capable de tracer la bonne date.
Je vais le faire saisir, ce Rossignol, pour qu'on le fouette jusqu'au sang!
« Il vous faudra le faire prendre à Saint-Jacques, mon ami, où il est en pèlerinage avec vos deniers. »«
À son retour, alors !»«
Ne craignez-vous pas qu'il parle un peu trop haut pendant qu'on le fouettera ?» Robert haussa les épaules.
« Heureux encore que la chose se soit passée ici, et non en lecture devant le Parlement. Il vous faudra veiller davantage, mamie, pour les autres pièces, à ce que de telles erreurs ne se commettent plus. »
Madame de Beaumont trouvait injuste que la colère de son époux se tournât contre elle. Elle déplorait l'erreur tout autant que lui, s'en attristait également. Mais après tout le mal qu'elle s'était donné, après s'être écorché les mains à couper la cire de tant de sceaux, elle estimait que Robert eût pu se contenir, ne pas la traiter en coupable. Après tout, Robert, pourquoi risquez-vous et me faites risquer ainsi qu'à tant de personnes de votre entourage d'être un jour convaincu de mensonges et de faux?
Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas des faux, hurla Robert. C'est le vrai que je veux faire éclater aux yeux de tous, alors qu'on s'est obstiné à le cacher.
Soit, c'est le vrai, dit-elle. Mais un vrai, avouez-le, qui a mauvaise apparence. Craignez sous de tels habits qu'on ne le reconnaisse pas. Vous avez tout, mon ami. Vous êtes père du royaume, frère du roi par moi, qui suis sa sœur, et tout puissant en son conseil. Vos revenus sont larges, et ce que je vous ai apporté par dot et héritage fait votre fortune enviable par tous. Que ne laissez-vous l'Artois? Ne pensez-vous pas que nous avons assez joué à un jeu qui peut nous coûter fort cher?
Mamie, vous raisonnez bien mal, et je m'étonne de vous entendre, vous si sage d'ordinaire, parler de la sorte. Je suis premier baron de France, mais un baron sans terre. Mon petit comté de Beaumont, qui ne m'a été donné qu'en compensation, est domaine de la couronne. Je ne l'exploite pas, on m'en sert les revenus. On m'a élevé à la pairie, mais vous venez de le dire vous-même, parce que le roi est votre frère. Or, Dieu puisse nous le garder longtemps, mais un roi n'est pas éternel. Nous en avons vu suffisamment passer que Philippe vienne à mourir. Est-ce moi qui aurai la régence? Que sa mâle boiteuse d'épouse, qui me hait et qui vous hait, s'appuie sur la Bourgogne pour régenter. Serais-je aussi puissant et le trésor me paiera-t-il toujours mes revenus? Je n'ai point d'administration, je n'ai point de justice. Je n'ai pas vraiment de grands vassaux. Je ne peux point tirer de ma terre des hommes à moi qui me doivent toute obéissance et que je puisse placer aux emplois. Qui nantit-on des charges aujourd'hui des gens venus de Valois, d'Anjou, du Maine, des apanages et fiefs du bon Charles, votre père? Où puiser mes propres serviteurs? Parmi ceux-là, je vous le répète, je n'ai rien. Je ne puis lever de bannières assez nombreuses qui fassent trembler devant moi. La puissance vraie ne se compte qu'au nombre des châtellenies qu'on commande et dont on peut tirer les hommes de guerre. Ma fortune ne repose que sur moi, sur mes bras, sur la place que j'occupe au conseil. Mon crédit n'est fondé que sur la faveur, et la faveur ne tient que ce que Dieu le veut. Nous avons des fils, eh bien pensez à eux, mamie. Et comme il n'est pas bien sûr qu'ils aient hérité de ma cervelle, je voudrais bien leur laisser la couronne d'Artois, qui est leur dot par juste héritage. »
Il n'en avait jamais dit aussi long sur ses pensées profondes. Et la comtesse de Beaumont, oubliant ses griefs du moment précédent, voyait son mari lui apparaître sous un jour nouveau, non plus seulement comme le colosse rusé dont les intrigues l'amusaient, le mauvais sujet capable de toutes les coquineries, le trousseur de toute fille, qu'elle fût noble, bourgeoise ou servante, mais comme un vrai grand seigneur, raisonnant les lois de sa condition. Charles de Valois, lorsqu'autrefois il courait après un royaume ou une couronne d'empereur, et cherchait pour ses filles des alliances souveraines, justifiait ses actes par de semblables soucis. À ce moment, un écuyer frappa à la porte. La dame de Divion demandait à parler au comte de toute urgence.
« Que me veut-elle encore, celle-là? Elle ne craint donc pas que je l'écrase? Faites-la venir. »
La Divion apparut à garde, porteuse d'une très mauvaise nouvelle. Ses deux mesquines en Artois, Marie la Blanche et Marie la Noire, celle qui l'avait aidée à acheter plusieurs des sceaux de la fausse lettre, se trouvaient en prison, appréhendées par les sergents de la comtesse Mahaut.